BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Cette journée d'apaisement sur les marchés, apaisement fragile, mais apaisement quand même porté par l'espoir d'une reprise des discussions entre les Américains et les Iraniens. Le CAC 40 est dans le vert ce midi. Côté pétrole, le baril de Brent est repassé sous les 100 dollars. On est autour de 98 dollars. Petite détente également sur le marché obligataire. Le 10 ans français est légèrement repassé sous les 3,7%. Le 10 ans allemand reste tout de même juste au-dessus des 3%. Une semaine après la trêve. Des sources iraniennes citées par Reuters évoquent donc une potentielle reprise des négociations avec les Américains dans les prochains jours, entre vendredi et dimanche, ou peut-être en début de semaine prochaine, selon d'autres sources au Pakistan, qui fait office de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. D'ici là, des pourparlers informels s'ouvrent aujourd'hui entre Israël et le Liban à Washington. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business, une demi-heure pour parler de nos logements, de notre immobilier et de vos témoignages, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier dans cette première séquence, le pro de l'IMO. Et aujourd'hui, on va avoir le témoignage d'un courtier, c'est très intéressant parce qu'il nous dira comment dans certains cas, moins être assuré, ça peut aussi être une bonne idée, dans certains cas seulement, on verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour, le contexte général, cette poussée de cette volonté d'électrification de notre bâti, il tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, on parle panneaux solaires, photovoltaïques, et ça tombe bien, il fait beau. Allez, d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Karl Jaffé, courtier chez CAFPI. Bonjour Karl.
Bonjour Marie.
Alors je le disais, voilà le petit conseil qu'on n'attendait pas. Parfois, pour obtenir un crédit IMO, mieux vaut pas être trop assuré. Vous nous racontez ?
Le sujet de l'assurance, il est parfois majeur dans un crédit. Il n'y a pas que le crédit, il y a aussi l'assurance. Moi, j'ai 22 ans de crédit et je suis assez spécialisé en assurance. Et j'étais confronté à des clients qui ont été extrêmement difficiles à assurer, qui ont parfois baissé les bras. Ça m'a demandé énormément d'énergie de démultiplier des démarches sur plusieurs assureurs. Ils m'avaient consulté que pour l'assurance, c'est-à-dire que j'étais pas en charge de la partie prêt. Et si vous voulez, je me suis retrouvé dans une situation où je n'arrivais à assurer que l'un seul des deux et avec des garanties très partielles, c'est-à-dire qui ne répondaient absolument pas aux besoins à ce que la banque demandait en termes de couverture. Donc les clients, à ce moment-là, étaient prêts à abandonner leur projet. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi reprendre la main avec la banque. Je me suis mis en rapport avec la banque alors que, je vous dis, j'étais pas en charge du crédit. Et on a travaillé avec la banque donc pour ajuster le prêt, pour que la banque puisse se retrouver dans une situation et en capacité, si vous voulez, d'accepter ses couvertures partielles et uniquement sur l'un des deux emprunteurs. Et donc, on a pu résoudre cette situation et faire en sorte que les clients puissent aller jusqu'au bout de leur projet avec des couvertures, je vous dis, extrêmement réduites.
Mais je vous interromps parce qu'effectivement, sur le papier, avoir une couverture extrêmement réduite, c'est pas très rassurant, en fait. Il y a un moment, j'imagine, où vous faites, comme en médecine, bénéfice-risque, c'est
bien
ça aussi le sujet.
Bien sûr, à charge pour les clients d'accepter d'être informés du niveau de couverture. Là, en l'occurrence, on était sur une résidence secondaire, donc on n'a pas les mêmes enjeux que sur une résidence principale où le client, en cas de difficulté, s'il y a un sinistre, il a toujours la capacité de vendre le bien et de pas se mettre en péril comme on est sur une résidence principale où évidemment l'enjeu n'est pas le même quand on n'a pas toutes les couvertures d'assurance. Et il est évident que le client, je l'ai informé et ils ont accepté d'avoir ces couvertures-là. Si vous voulez, on était sur un couple sans enfant avec des enjeux qui n'étaient pas les mêmes et avec un risque qui était modéré, si vous voulez.
Mais alors justement, pour terminer, Karl, quelques conseils pour nous dire en gros dans quel cas effectivement c'est intéressant et dans quel cas vaut mieux éviter. Donc là, on l'a déjà dit, lorsque c'est une résidence secondaire, a priori les risques sont moindres. Est-ce qu'il y a d'autres curseurs à regarder ?
Ben c'est la composition du foyer, c'est la situation de la famille, la présence d'enfants, c'est le ressenti des clients aussi avant tout. Moi, je me souviens de situations où c'est vraiment ce que vous dit l'assuré et le client qui va compter. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont leurs sensibilités et leurs inquiétudes. Certains clients vont avoir des attentes d'autres pas. Je me souviens d'une cliente qui gagnait très bien sa vie, et le monsieur moins. Et la personne m'a répondu, moi si mon mari décède, je vais m'effondrer. Donc on s'est préoccupé d'assurer les deux au maximum, justement pour répondre à cette inquiétude du client. Donc il y a énormément de paramètres. Moi, je crois que l'assurance est avant tout une composante essentielle du crédit. Il faut s'en préoccuper très tôt dans la mise en place du crédit. Il faut pas attendre, faut pas s'en préoccuper lorsque le crédit est trop avancé, parce que souvent il est trop tard pour réagir quand il y a une difficulté. Enfin, moi, c'est une des premières questions que je pose quand je prends un dossier de crédit, c'est de voir dans quelle situation je vais me retrouver avec l'assurance et quels sont les clients, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs attentes, quel est leur état d'esprit.
Et c'est important, Carl, que vous le rappeliez. J'en profite aussi pour rappeler aussi, parce que même si vous le disiez, c'est important de s'en soucier dès le démarrage du crédit, il y a quand même à rappeler quand même, bon alors ceux qui nous suivent depuis un paquet d'années le savent, mais vous le savez, vous pouvez changer d'assurance de prêt à tout moment pendant votre crédit immobilier. C'est important de le dire, parce que souvent quand même, on embrasse nos amis banquiers, hein, mais l'assurance de la banque, elle est souvent très coûteuse et qu'on a souvent intérêt à dire oui, monsieur le banquier, je prends votre assurance de prêt, et puis partir ailleurs vers d'autres cieux une fois le crédit obtenu, on est d'accord?
Tout à fait. Oui. L'assurance bancaire peut être adaptée, hein, elle peut être dans certaines situations. Après, c'est vrai que la loi Lemoine est très bien faite, puisqu'on peut changer d'assurance à tout moment, dès le premier mois, sans impact sur le prêt, puisque à partir du moment où vous fournissez une équivalence de garantie à la banque, le banquier doit se borner à changer l'assurance sans modifier le taux, ni prendre de frais de dossier, ni quoi que ce soit. Après, attention, il ne faut pas qu'il y ait eu de changement dans la vie du client qui puisse, et ça rejoint un peu le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, de l'absence de garantie ou de garantie partielle, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation quand le client a eu une difficulté d'assurance, une difficulté de santé, et qu'on se retrouve à perdre une garantie, ben là on peut plus faire jouer la voix le moine. Hein. Donc il faut vraiment qu'on ait cette équivalence de garantie avec un niveau de garantie équivalent et qu'on puisse le faire sans qu'il y ait de changement dans la situation de l'assuré.
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, on en parle assez régulièrement. Merci, Carl. Carl Jaffé, courtier chez Caspi. On aura notre duo de choc sur l'assurance de prêt, je crois, si je dis pas trop de bêtises, cette semaine précisément, pour détailler justement les cas où c'est intéressant de changer d'assurance de prêt. Mais effectivement, Carl, vous aviez raison. Il y a des choses parfois qui arrivent et qui font qu'il est plus intéressant de ne pas changer d'assurance de prêt. Bref, on en reparle assez régulièrement. Merci, Carl. Carl Jaffé, courtier chez Caspi. Si comme lui, vous avez un témoignage terrain à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail. experts de l'IMO@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Quentin Lestavel, General Manager Murphy Solaire. Vous pouvez pas avoir...
un titre un peu français.
Manager général, même pas manager d'ailleurs. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Et Benjamin Bernathan, cofondateur, et je ferai pas la suite de Solar Rock, parce que sinon c'est E-C-R-O.
Oui, c'est ça, CRO, ça en charge du revenu.
Bah bonjour. Voilà, bonjour à tous les deux. Vous êtes avec moi pour parler du soleil, de notre énergie à tous. Et en plus, ça tombe très bien, je le disais dans le sommaire, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler d'électrification de nos logements. Bon, évidemment, c'est bien la pompe à chaleur et on en reparlera. Mais il y a aussi des solutions telles que les panneaux solaires. Ce qui est assez dramatique, c'est que... Alors, j'en parle assez régulièrement à l'antenne, mais j'ai le sentiment... qu'il se passe pas grand-chose, c'est horrible, vous allez me détester, hein, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait une espèce de prise de conscience massive des gens sur le panneau solaire. Est-ce que aujourd'hui on a des Français qui se disent « Ah ouais, c'est une opportunité, je vais installer des panneaux solaires » ou est-ce que ça reste finalement assez étal? Je sais plus quel est le taux de couverture des Français en panneaux solaires.
5%, ouais. Oui, aujourd'hui, il y a une prise de conscience avec la crise énergétique qu'on vit en ce moment, qui est sans précédent. On se rend peut-être pas compte, mais c'est quand même une crise qui est plus grave que celle de 73, 79 et 2022 réunis. Et c'est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Donc c'est sûr que face à cette crise sans précédent, les Français, eux, ils en ont marre. Ils veulent pouvoir maîtriser leurs factures, ne pas subir les hausses d'électricité, ne pas subir la volatilité. Et donc, la solution pour ça, c'est produire sa propre électricité pour ne pas dépendre justement des hausses d'EDF et pouvoir justement voir venir sur le coût de leur électricité qui restera fixe dans le temps. Et maintenant, la question à se poser, c'est justement comment on accélère cette adoption. Effectivement, 5%, c'est sans doute pas assez par rapport à 15% en Allemagne. Mais il y a sans doute eu un manque de confiance dans le secteur avec beaucoup d'éco-délinquants.
Oui, on a beaucoup entendu parler aussi des trucs qui venaient de Chine, des matériels qui n'étaient peut-être pas forcément hyper solides, d'un coût qui est quand même très élevé, d'une rentabilité qui met du temps à venir. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, ça a l'air compliqué et pas rentable ».
C'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer parce que déjà, le matériel a vraiment baissé en termes de coût. 80% sur les panneaux ces 10 dernières années pour un matériel qui est vraiment de très, très bonne qualité. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, il est vraiment de s'engager envers le client. De faire en sorte que quand il s'engage avec nous, il sache que nous, on prend des engagements aussi. Par exemple, ce qu'on fait, c'est que nos techniciens sont tous évidemment des techniciens salariés chez Murphy, mais on s'engage aussi après l'installation. On fait de l'entretien pendant 5 ans où on vient tous les 18 mois nettoyer les panneaux, vérifier l'installation, et on s'engage sur le productible. C'est-à-dire qu'on s'engage sur la valeur des kilowattheures produits chaque année pour qu'ils sachent exactement
à quoi s'attendre.
Vous
pouvez vous projeter et vous dire vous allez
exactement.
Produire tant. Quoi.
Et on les indemnise s'il y a une différence de plus de 5%. Donc l'enjeu, il est véritablement là aujourd'hui, c'est recréer les conditions de la confiance pour pouvoir rassurer et du coup qu'ils osent franchir le pas, qu'ils osent faire des économies.
Mais on est d'accord quand même, Benjamin, c'est un coût au démarrage. Faire installer des panneaux solaires,
Absolument.
Surtout si on veut que ce soit efficace.
Alors, ça a un coût, effectivement. Mais comme le disait mon confrère, la profession se professionnalise, on va dire. La filière s'assainit. Et donc, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de pouvoir bien dimensionner sa centrale solaire, de bien choisir le matériel. Et c'est en faisant confiance à des acteurs qui vont vous prescrire le bon matériel avec les bonnes assurances que vous allez pouvoir faire les bons investissements. Le coût aujourd'hui du solaire, un foyer moyen en France consomme à peu près 5000 kWh, à peu près 1000 euros de frais d'électricité par an. Le solaire, c'est à peu près une installation photovoltaïque classique, c'est à peu près entre 40 à 70% de cette facture que vous allez pouvoir baisser dès le jour 1. Et tout l'enjeu aujourd'hui du solaire et du photovoltaïque, c'est qu'on passe dans une nouvelle ère où on était à l'époque, on va dire, sur une installation simple solaire. Maintenant, on passe avec de la batterie de l'énergie. Et c'est tout là l'enjeu.
Mais c'est là où ça coûte plus cher, messieurs. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'installe juste un panneau solaire et que je consomme de manière immédiate, c'est ça à peu près l'idée. C'est ça produit, bim, je consomme. Il faut que je sois là au bon moment aussi, parce que c'est ça le sujet. L'idée de la batterie, c'est quand même de pouvoir stocker l'énergie que je vais produire en journée quand je ne suis pas là et pouvoir l'utiliser le soir quand je rentre. Mais tout ça, ça a un coût. Donc, je voudrais... Maintenant, vous me dites combien ça me permet de faire des économies. D'accord, mais au démarrage, combien faut que je dépense pour pouvoir avoir une installation véritablement efficace?
Alors, le prix dépend de l'installation qu'on va mettre en place.
Forcément, ça dépense.
L'installation moyenne, je vous disais, un foyer qui dépense 1 000 euros de frais d'électricité, 5 000 kWh, vous allez à peu près avoir ce qu'on appelle 6 kW crête, donc 12 panneaux solaires. Ça coûte entre
12 panneaux solaires.
10 et 15 000 euros. Il faut comprendre exactement le matériel, les assurances et le type de. Et quand vous ajoutez une batterie, vous allez pouvoir rajouter entre 3 à 5 000 euros. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le photovoltaïque, le solaire, ça se rentabilise à peu près entre 7 à 10 ans, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon l'inclinaison de votre toiture. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir des études de rentabilité qui sont faites par des installateurs sérieux, comme SolarRock ou Murphy, qui vont pouvoir vraiment comprendre, analyser vos données réelles de consommation, vous faire une étude de rentabilité en venant sur place, en faisant des visites techniques et en vous proposant le bon matériel pour pouvoir produire.
Bon, j'entends sur la vision long terme, donc on pourrait avoir tendance à... On rappelle qu'un crédit immobilier, globalement, on le garde 7 à 8 ans. Donc j'imagine que le bon plan, c'est quand même de faire installer ses panneaux solaires au moment où on achète sa maison.
Par exemple, ouais. Tout à fait.
Et l'autre question derrière, c'est forcément, vous êtes sur BFM Business, on parle beaucoup des aides publiques. Là, en l'occurrence, sur le solaire...
Oui, mais c'est... Mais
bon,
c'est...
déjà que sur le reste, ma prime rénov, accrochez-vous pour l'obtenir à la fin, mais bon.
Clairement, il y a une baisse des aides depuis maintenant un an et un peu plus même. Après, cette fin du modèle subventionné, qui est ce vers quoi on tend, très honnêtement, elle est liée au fait que justement le coût du matériel a baissé. On a parlé des panneaux, on a parlé des batteries. Honnêtement, aujourd'hui, le solaire est rentable aujourd'hui sans aide. Ce qui pose problème aujourd'hui...
Au bout d'un moment quand même.
Au bout d'un moment, mais après on parlera des solutions de financement, parce qu'il y a des solutions de financement qui permettent aussi d'y arriver. Maintenant, ce qui aujourd'hui pénalise le secteur, c'est les changements de braquet. Tous les 3 mois, avec des aides qui changent. En fait, ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Ouais. Ce qu'il faut, c'est de la rationalité. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Il y a une TVA à 5,5 qui existe aujourd'hui sur les panneaux solaires. Elle n'est pas possible dès lors qu'on installe une batterie. Alors même que, justement, la batterie est nécessaire.
C'est un truc de dingue.
Pour l'autoconsommation. Ce genre de décision, c'est particulièrement difficile à comprendre. Et donc, c'est pour ça que la filière aussi, évidemment, prend la parole, essaye d'avoir voix au chapitre.
Et c'est quoi la justification? Pourquoi, finalement, on perd cette TVA réduite à partir du moment où on installe une batterie?
Très honnêtement, c'est extrêmement nébuleux et on essaye de comprendre, sans doute pour ne pas trop faire de cadeaux et d'avoir une TVA à 20%.
Dans le même plan qu'on subventionne la pompe à chaleur, mais pas l'isolation, quoi.
C'est l'idée.
C'est à peu près l'idée.
Donc oui, il y a clairement aujourd'hui une problématique de faire en sorte d'avoir de la stabilité dans le secteur. Et pour répondre à la question du financement, aujourd'hui, il y a différentes solutions qui existent. Nous, on propose du crédit spécifique pour l'installation de panneaux solaires sur 15 ans. Alors, généralement, les banques proposent...
Vous dites nous, Murphy, parce que l'éco-PTZ, par exemple, c'est mort.
L'éco-PTZ n'est pas éligible au solaire. Donc, seulement sur des panneaux thermiques, donc sur le photovoltaïque, c'est pas possible. Et après, il y a des solutions qui sont en train de se développer de plus en plus. On propose depuis quelques mois ce qu'on appelle l'abonnement solaire. C'est-à-dire que vous avez des panneaux sur votre toit, vous avez une batterie chez vous, et vous n'êtes pas propriétaire de la solution. Et pour autant, vous faites des économies parce que vous utilisez l'énergie produite. Nous, on fait ça avec un partenaire qui s'appelle Zillow, mais il y a d'autres acteurs qui existent. Et ça participe vraiment à la démocratisation du secteur qui en a vraiment besoin. Parce qu'encore une fois, 5% de pénétration par rapport à 15% en Allemagne. OK, il y a eu peut-être plus d'aide en Allemagne, mais il y a vraiment aujourd'hui un moment de bascule qui fait qu'on doit accélérer parce que, en fait, dépendre des énergies fossiles et importer des énergies fossiles, c'est importer les crises d'autres États.
Ouais.
Donc, on doit, c'est un vrai bouclier stratégique aujourd'hui, l'électrification et le solaire, mais pas que, en fait. La pompe à chaleur, on en a parlé, on installe aussi des pompes à chaleur pour justement coupler les effets bénéfiques de...
Mais il y a un vrai sujet du financement. J'imagine que de votre côté aussi, chez SolarRock, vous essayez justement, faute de subventions publiques, de trouver des systèmes pour que finalement on puisse s'adapter à cette énergie solaire et la tester, ne serait-ce que la tester en fait.
Alors effectivement, le financement, c'est un point essentiel pour pouvoir générer de l'adoption. Donc on propose aussi des modèles d'abonnement ou des systèmes de prêts qui sont bénéfiques. Je voulais juste attirer votre attention parce que souvent il y a une incompréhension sur cette notion de rentabilité. Une installation solaire, ça dure à peu près 30 ans. Quand on dit que l'amortissement est entre 7 et 10 ans, il faut bien avoir en tête qu'à la fin de cette période, les 20 ans qui restent,
c'est, votre que, du plus,
c'est
ouais.
que du surplus.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça valorise le patrimoine que je vais sans doute revendre entre-temps, parce que ça ne va pas me bénéficier directement à moi sur 30 ans. C'est quand même rarissime à ce stade, et c'est pour ça que je rappelais la durée moyenne de possession d'un crédit immobilier, c'est que souvent on a tendance à revendre au bout d'une petite dizaine d'années. Donc c'est ça le sujet aussi.
Absolument. Après, ça valorise le bien à la revente, ça valorise le DPE, donc il y a tout un
tas de bénéfices secondaires. Ah oui, alors ça, vous m'intéressez messieurs, ça valorise de combien le DPE?
Alors en fait, le DPE, il prend en compte plusieurs mesures. Il y a l'énergie primaire, il y a les émissions de CO2. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous installez du photovoltaïque, vous avez compris qu'en fait, c'est autant de kilowattheures que vous ne rachetez plus au réseau. Donc vous baissez en fait... vos dépenses en émissions de CO2 et vous augmentez votre autoconsommation. Donc en fait, vous pouvez gagner une classe énergétique sur votre logement.
Une classe, en gros, globalement, vous dites, avec l'installation de panneaux solaires, vous gagnez une note de
à peu près.
De performance
Alors,
énergétique.
Là, on est en train de plus en plus de travailler avec des diagnostiqueurs immobiliers pour que ce soit de plus en plus, on va dire, standardisé et validé. Mais ce qui est aussi très compréhensible et intelligible pour tout le monde, c'est qu'allez voir votre notaire,
vos
agents
immobiliers. Pardon, je vous interroge, j'ai Alban, notre réalisateur, qui me dit dans l'oreillette, ouais, parce qu'une pompe à chaleur, c'est deux notes de performance énergétique.
Absolument, et de toute façon, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, le sujet, c'est l'électrification, et qu'en réalité, il y a une demande d'électrification très importante, donc la subvention de l'État en faveur des pompes à chaleur qui a été annoncée par M. Lecornu, ça va, on va dire, favoriser encore plus l'adoption du solaire pour pouvoir produire sa propre énergie et la piloter, comme on disait tout à l'heure, puisque l'enjeu, il est vraiment au niveau du pilotage.
Et vous parliez de la valorisation du patrimoine, parce que ça m'intéresse, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur la note de diagnostic de performance énergétique. L'être humain est ainsi fait qu'il a envie d'y gagner à la fin, et c'est tout à fait logique. Gagner, évidemment, sur les consommations, sur l'année, évidemment, mais gagner à la fin soit en valorisation du patrimoine, soit en note de diagnostic de performance énergétique. Mais sur la valorisation du patrimoine, vous avez pu chiffrer justement comment dire, la valeur supplémentaire accordée à un bien qui possède une installation solaire aujourd'hui?
Il y a différentes études qui existent là-dessus. Je crois qu'il y a une étude notamment qui dit que chaque euro économisé mensuel, c'est a priori 20 euros de valorisation pour le bien. Donc ça veut dire que si par exemple vous économisez 15 euros ou 10 euros par mois, ça va être 120 euros à l'année, 120 euros fois 20 en valorisation supplémentaire potentiellement sur le bien. Après, c'est des études qui diffèrent selon les, voilà, selon les bureaux d'études, mais ce qui est sûr, c'est que l'acheteur, ce qu'il regarde à la fin, c'est la facture de la personne qui est
foi,
en ce moment.
Mais bien
qui fait
foi.
Et en fait, il se dit, OK, bon, en fait, effectivement, ça a du sens. Je sais que je vais payer tant a priori avec les mêmes usages. Et après, tout l'enjeu, on l'a dit, c'est de continuer à électrifier, d'ajouter potentiellement le véhicule électrique quand c'est pertinent, d'ajouter la pompe à chaleur, d'ajouter
le ballon. On va pouvoir charger nos voitures avec les panneaux solaires?
Bah, complètement. Maintenant, les bornes de recharge sont intelligentes. C'est-à-dire qu'elles.
C'était un peu idiote.
Non, mais il y a une notion, en tout cas, de borne solaire qui fait que, justement, le surplus solaire, plutôt que d'aller sur le réseau, on a parlé du fait que la revente était maintenant à 4 centimes, plus vraiment intéressante, ouais. Et bien ça va plutôt aller directement vers le véhicule électrique. Pareil sur la notion de ballon d'eau chaude, faire en sorte que ça aille directement vers le ballon d'eau chaude pour
chauffer. C'est le sens de l'histoire.
C'est le sens de l'histoire. Et il y a plein de technologies qui sont en train de se développer, prenant en compte la météo des jours d'après pour faire
et
en sorte
que... Et alors justement, messieurs, à ce propos, on va essayer de casser certaines idées reçues. Encore une fois, je montre du doigt Alban, notre réalisateur, qui me dit « Ouais, mais on imagine que dans le nord ou dans le sud, c'est pas exactement la même chose.
»
Alors oui. Mais dans quelle mesure? Parce que moi, je me souviens de vendeurs de panneaux solaires qui m'expliquaient que les pays du Nord étaient très largement pourvus en panneaux solaires et que ça fonctionnait très bien. Donc, la réalité, c'est quoi de l'efficience du panneau solaire en fonction de la météo?
La réalité, c'est quand l'effet photovoltaïque, il n'est pas généré par le soleil, il est généré par la lumière. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les pays scandinaves ou allemands, ils sont 4 à 5 fois plus équipés alors qu'ils ont beaucoup moins de soleil. Nous, chez SolarRock, on est un installateur solaire présent dans 5 régions, mais notre région la plus importante, c'est l'Île-de-France, qui a priori a moins de soleil. Et pourtant, on a évidemment une croissance et un taux d'équipement très important. Donc aujourd'hui, en fait, le solaire est rentable, quelle que soit votre région. Ce qui va différer, c'est la durée d'amortissement, où effectivement, quand vous êtes dans le sud et que vous avez une grosse consommation et une meilleure production grâce à votre installation, vous allez peut-être rentabiliser plus vite. Mais rentabiliser plus vite, ça ne veut pas dire que vous allez faire une meilleure économie sur 25 ans. Donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de faire des études de rentabilité sur mesure. Et nous, on bataille souvent pour faire comprendre aux gens qu'en France, justement, le photovoltaïque est rentable partout. Et d'ailleurs, les régions en France qui s'équipent le plus en ce moment, c'est les régions du Nord. Donc, c'est assez intéressant.
C'est clair qu'il y a des idées reçues. Enfin, je souscris complètement à ce que dit Benjamin. En fait, aujourd'hui, si on rapporte le coût du kilowattheure, donc vous avez une installation qui produit des kilowattheures sur 25 ans, à la fin, vous avez un coût du kilowattheure, il va être autour de 4 centimes environ dans le Sud.
Ouais.
Dans le Nord ou dans l'Île-de-France, il va être autour de 6 centimes. En fait, ce n'est pas un rapport de 1 à 3. C'est une hausse légère, effectivement, qui fait que c'est plus long à rentabiliser, mais c'est rentable partout en France. Et effectivement, l'exemple de l'Allemagne est, je pense, le meilleur exemple.
Ouais, mais c'est pour ça que ça vaut le coup de le rappeler. Maintenant, il nous reste que 5 minutes, le temps passe vite. Il va falloir que je vous parle d'autre chose. Alors, évidemment, c'est mon prisme de parisienne, mais de tous ces habitants des grandes villes qui auraient rêvé vivre dans une maison. Comment fait-on pour équiper le collectif? Parce que c'est ça le sujet aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a sa propre maison, qu'on a des toitures plus ou moins adaptées, et je sais que vos systèmes d'installation peuvent s'adapter aussi aux toitures en fonction des maisons. Maintenant, comment on fait sur le collectif?
Alors, quand vous dites le collectif, vous voulez dire les communautés, les copropriétés. Alors, il y a plein d'évolutions dans le photovoltaïque. Il y a un segment de marché qui a le vent en poupe, qui s'appelle l'autoconsommation collective. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Bien.
Qui est la possibilité, en fait, de pouvoir faire bénéficier d'une installation photovoltaïque à plusieurs résidents ou plusieurs communautés à l'échelle d'un territoire, d'une commune. C'est en ce moment très, très plébiscité par les mairies, les communes. Et à titre d'exemple, c'est une école qui va s'équiper et qui va pouvoir redistribuer la production non plus au réseau, mais à une communauté de résidents dans un territoire, on va dire, entre 5 à 10 kilomètres. Et donc ça, par exemple, c'est un créneau, en fait, qui est en pleine croissance. Puis après, pour... Nous, c'est vrai que chez SolarRock, on équipe principalement des foyers
maisons.
Résidentiels. C'est 15 millions de foyers en France,
ouais.
Pour uniquement 700 000 équipés. pour ceux qui habitent en ville, en fait, il y a des petites solutions de, qu'on appelle de plug and play.
Ouais, alors moi j'en ai monté une pour tester une fois. Bon, alors après je pourrais pas le mettre sur mon balcon, hein, mon petit balconnet. Mais quand même, il y a un sujet de est-ce que la technique s'est améliorée pour nous permettre à nous habitants d'appartements avec ou sans balconnet de pouvoir profiter de l'énergie solaire, soit sur le toit carrément du bâti en faisant voter la copro, enfin, soit évidemment à nos fenêtres. Enfin, je sais pas. Est-ce que aujourd'hui la technique s'améliore au point, vous parliez de bornes intelligentes, est-ce qu'on va avoir des panneaux, des micro-panneaux intelligents capables de capter et...
Le rendement des panneaux s'améliore d'année en année, ça c'est une certitude. Et donc, si on prend l'exemple des immeubles, il est tout à fait possible d'envisager des installations sur le toit de l'immeuble qui viennent nourrir potentiellement l'immeuble. Après, sur le plug and play, c'est effectivement un peu différent. C'est souvent une bonne manière de tester. Le plug and play, même pour des maisons, il y en a certains qui voilà testent avec deux ou trois panneaux, aiment bien, trouvent ça ludique et se disent ok, non mais en fait au-delà d'être ludique, ça me permet de faire des économies et donc j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux
et efficace et avec la batterie, parce que le plug and play pas de batterie, c'est
je voilà pense, exactement comme, ouais. Et donc nous on a beaucoup de clients comme ça qui viennent nous voir en disant bah voilà j'ai testé, je sais que ça fonctionne, maintenant je sais aussi ce que je veux et derrière bah c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire il faut faire une visite technique gratuite chez le client pour vraiment qu'il puisse comprendre ce que nous on ferait, on va poser notre garantie décennale sur sa toiture, on vient regarder son tableau électrique, on va regarder voilà, différents éléments, on vient répondre à ses questions et ce qu'on indique aux clients, c'est faites aussi plusieurs devis. En fait, c'est un secteur, encore une fois, où il y a eu beaucoup d'abus, donc faites deux ou trois devis pour être certain de choisir le bon installateur, c'est aujourd'hui ce qu'on recommande à tous nos clients.
Mais du coup, s'il y a des habitants d'appartements qui nous écoutent, qui nous regardent, ça ne sert à rien qu'ils vous passent un coup de fil ou il y a des solutions qui peuvent être trouvées, adaptées à leur logement ou pas?
Sur les balcons, personnellement, nous, on fait pas. Par contre, sur les toitures d'immeubles,
Et de copro. Donc, et de du copro, coup, on, ouais, peut, on peut, par exemple, là, ça va être la saison des AG. C'est l'occasion, peut-être, évidemment, de le suggérer au reste de la copro.
Ouais, absolument.
Et ça commence à sortir parce que moi je regarde hein, alors quand je peux parce que je suis un peu petite, mais quand j'arrive à une hauteur suffisante.
Les processus de décision sont beaucoup plus longs et il y a une technicité un peu plus forte.
Fine, ouais.
C'est vrai que nous chez Solaroc c'est pas notre cœur de métier. Les syndics de copro ou le plug and play, nous on pense que le vrai nerf de la guerre et le nerf de la guerre de la décarbonation, il passe par les foyers résidentiels où on est vraiment en retard, on est à 5% de taux de pénétration. Et qu'en réalité, il y a plein de foyers qui habitent en pavillon, en Île-de-France, à proximité des villes. Et c'est le cœur des ménages français aujourd'hui.
Non, mais bien sûr. Mais il y en a qui rêveraient hein, d'avoir aussi leur maison. Je le dis comme ça d'avant. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, mais c'est trouver des solutions qui s'adaptent aussi à la taille de nos foyers et le contexte de vie. Donc c'est toujours intéressant. Je voulais conclure par un truc parce que quand on a préparé cette émission, vous nous avez envoyé un mail, Benjamin, dans lequel vous dites que finalement, l'arrêt et l'absence d'aide véritable aujourd'hui, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi pour vous, ça?
En fait, la fin des aides, c'est pas la fin du photovoltaïque, c'est juste la fin d'un marché subventionné. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis, il y a 3 ans. Il s'est passé exactement le même phénomène, c'est-à-dire que le marché, les aides ont complètement arrêté. Et en fait, le marché derrière ressuscité de ses cendres.
Vous avez vu comment je l'ai laissé se débrouiller, là?
C'est
violent. Ressuscité de ses cendres avec justement l'adoption de la batterie.
Phénix.
Alors aujourd'hui, il y a plus de 75% des installations aux États-Unis qui comprennent une batterie. Et c'est exactement ce qu'on voit, nous, chez Solaroc. 2 installations sur 3, aujourd'hui, se font avec de la batterie et avec l'EMS, l'Energy Management System. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle. La filière
peut professionnaliser. Ça a nettoyé la filière, en fait.
Exactement. Et en fait, le message clé à retenir aujourd'hui, c'est qu'en fait, le photovoltaïque est rentable sans les aides et est fondamental pour notre...
Le message, je crois, il est passé. Merci à tous les deux. Il y a la musique de l'émission que vous n'entendez pas, mais que moi j'entends dans la petite oreillette. C'est la manière d'Alban pour lui de vous dire au revoir, ainsi qu'à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci Benjamin Bernatan, cofondateur de Solaroc, et Quentin Lestavel, général manager de Murphy Solaire. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces panneaux solaires, de cette électrification nécessaire. Et les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.